Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est Catherine Aupic. C'est elle qui a accepté de nous donner ses notes en ce jeudi 23 janvier 2025. Auditrice, auditeur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission Donnez-nous vos notes, que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer. C'est aujourd'hui la première de 2025 pour cette série d'émissions de Donnez-nous vos notes, et comme les vœux peuvent être présentés tout au long du mois de janvier, je vous souhaite les meilleurs pour l'année qui s'ouvre, pour vous comme pour celles et ceux qui vous sont chers. Bonjour Jean-Marc et bonne année à toi. Comment tiens? Merci de ton aide technique au service de la meilleure écoute pour les auditeurs, mais aussi comme soutien à l'animateur que je suis. Bonjour Catherine Aupic, bonne année également à vous comme à votre.
Bonjour Stéphane.
Auditrice, auditeur, encore une fois, merci de vos témoignages nombreux que vous envoyez pour dire votre satisfaction à l'écoute de Donnez-nous vos notes. Je ne doute pas que vous apprécierez de recevoir les notes que Catherine Aupic va aujourd'hui nous donner, que dis-je, va aujourd'hui nous offrir. Catherine Aupic, merci d'avoir répondu à l'invitation de RDC. Auditrice, auditeur, Catherine Aupic a donc accepté de se prêter au jeu. Elle va nous dévoiler son parcours, son choix d'entrer dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies culturelles, artistiques, musicales. Le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un partage, autant musical que humain. Catherine va nous dire comment elle vit avec la musique, mais sans doute aussi comment la musique opère sur elle, ne serait-ce qu'à travers l'influence qu'elle a sur sa personne, voire sur son entourage. Catherine va nous guider vers sa compréhension de la musique, sans doute celle qui permet l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute des autres. C'est cette écoute qui permet de faire de la musique avec et pour les autres. Catherine, vous êtes prête?
Je suis prête.
Alors Catherine Aupic, donnez-nous vos notes.
Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC.
Catherine, une question pour commencer, comme ça, tout go, à brûle pour point, qui êtes-vous?
Donc je suis musicienne, pianiste, et j'enseigne le piano, et aussi je dirige une chorale, voilà. J'accompagne plusieurs chorales également.
Ah ah, plein de choses déjà. En une personne, nous recevons finalement plusieurs artistes, vais-je dire, c'est ça?
Oui, je veux dire ça.
Catherine, votre lien avec la musique, c'est de ça que nous allons parler beaucoup ce matin. Comment s'est-il tissé ce lien? Depuis quand? Comment ça a commencé? Est-ce que la musique fait partie de votre vie depuis toujours?
Oui, en effet, depuis toujours, oui.
Alors dites-moi.
En fait, mes parents n'étaient pas musiciens, mais ils écoutaient beaucoup de musique. Et on écoutait régulièrement le dimanche, par exemple, des disques.
Et la radio?
Et la radio également.
Autour de l'appareil, au milieu du
voilà,
salon, ou de la cuisine, ou de la manger.
Grondy.
Ah, oh, la publicité. Bref, mais bon, ça n'existe plus. Donc, on va dire qu'on a le droit. Parmi les écoutes favorites de vos parents, est-ce que vous en retenez une ou deux?
Carmen, par exemple.
Carmen, c'est
mon
l'opéra,
papa,
c'est ça?
Aime beaucoup l'opéra, et notamment Carmen. Oui.
Carmen de Bizet.
Oui, oui.
Alors, on ne va pas écouter tout l'opéra, vous le comprendrez, mais On va écouter une version que vous avez choisie sous la direction d'un chef d'orchestre qui vous a marqué.
Georges Prêtre.
Georges Prêtre, oui. Grand chef d'orchestre français. Et on ne l'entendra pas puisqu'on va écouter un extrait de l'ouverture, mais vous appréciez, je crois, et votre papa aussi.
Maria Callas.
Maria Callas dans le rôle de Carmen de cet opéra de Georges Bizet. On écoute l'ouverture ?
Avec plaisir.
Un extrait, allez, c'est maintenant. Votre père adorait Carmen, dites-vous, Catherine, c'est ça? Oui. Je crois qu'il n'est pas le seul, hein, parce que Carmen, c'est un opéra comique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des passages parlés, ça ne veut pas dire que ça fait rire, hein. En plus, quand on connaît l'histoire, tiens, l'histoire, on peut la résumer rapidement, vous la connaissez, l'histoire de Carmen, je suppose?
Oui.
Allez, très vite. Hein.
C'est l'histoire d'une séductrice, un peu, Carmen qui est cigarière.
Une cigarière, donc ça veut dire qu'elle fait des cigares.
Elle fabrique des cigares. Et elle aime la séduction.
L'amour est un oiseau rebelle. C'est elle qui dit ça et qui chante ça.
Voilà. Et la liberté.
Elle se veut libre dans ses choix, finalement.
Exactement.
Et dans sa manière d'être. Oui. Et puis elle veut séduire. Elle veut séduire Don José, notamment, c'est ça?
Oui.
Don José, qui c'est Don José?
C'est le...
Un brigadier
soldat, qui la met en prison, même, à un moment donné, parce qu'elle s'est battue. Ça commence comme ça, l'opéra.
Oui.
Et il lui permet de s'échapper parce qu'elle le séduit.
Et elle se sauve dans la montagne. Voilà. Et elle rencontre un toréador.
Oui, sur son chemin, elle rencontre quelqu'un d'autre.
Escamillo. Et oui. Elle le séduit à nouveau.
Oui.
Et Don José est jaloux. Oh, c'est terrible la jalousie d'un Espagnol, d'un Ibère. Et puis à la fin, il lui dit, ou tu viens avec moi, ou je te tue. Elle dit, je ferai ce que je voudrais.
Voilà. Et il choisit la mort.
Il la tue et les dernières paroles chantées par Don José, c'est « Vous pouvez m'arrêter, c'est moi qui l'ai tué ». Donc c'est vraiment pas un opéra comique au sens marrant. Et pourtant, cet opéra qui est parmi les opéras les plus joués au monde, et même dans la version, les suites d'orchestre pour Carmen, une des musiques les plus diffusées sur la planète, au moment de sa création, l'opéra, il n'a pas eu le succès que Georges Bizet escomptait finalement.
Oui, et parce que justement, c'était un peu provocateur pour l'époque, l'histoire, le drame.
Oui, et puis alors, il y a peut-être une autre raison, c'est que ça se situe dans une Espagne dans laquelle Georges Bizet ne serait jamais allé. C'est une Espagne imaginaire. Oui. Est-ce qu'on fait des cigares en Espagne? Moi, j'aurais pas dit ici. Hein, j'aurais dit à la Havane. Mais bon, le succès, il est venu quelques temps après le décès de Georges Bizet. Et peut-être grâce à l'interprétation à Bruxelles, comme on dit, de Minnie Hawk, qui, dans le rôle titre, a fait un tabac, quoi, puisqu'on parle de cigarière. Donc Georges Bizet mourra sans savoir que son dernier opéra sera...
Oui, c'est sa dernière œuvre, je crois.
Ouais, l'un des plus grands succès de l'histoire de la musique, puisque, je le redis, c'est à ce jour un des opéras les plus joués au monde. Bah, c'est une belle ouverture. Ouverture, un prélude, comment on dit pour un opéra? On peut dire les deux?
Oui, l'ouverture, mais c'est aussi le prélude.
Alors ça, c'était le choix de papa.
Oui.
Et alors, maman, elle écoutait quoi? Ça,
maman,
bien sûr, mais d'autres autres aussi.
Oui. Les valses de Chopin, par exemple.
Chopin, pianiste polonais de naissance, qui a beaucoup vécu en France. Oui. Les valses de Chopin, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de 18 compositions, je crois, pour piano.
Oui.
Elles font partie des pièces les plus jouées du répertoire romantique.
Oui, c'est vraiment les incontournables de la période romantique.
Et il se dit qu'il existerait deux autres valses, dont la dernière aurait été perdu. Il y a seulement trois valses qui sont
pour vraiment danser.
Ouais, il y a vraiment trois valses qui sont destinées à danser, dont celle que votre mère écoutait tant, Catherine, la grande valse brillante, opus 18, si je
sais. En mi bémol.
Mi bémol, ça veut dire c'est une tonalité, c'est ça?
Tout à fait.
Ouais.
Oui.
Mi bémol majeur.
Oui.
C'est la première des valses composées par Frédéric Chopin, et c'est celle que nous écoutons maintenant.
29.
Alors l'écriture comme l'interprétation de ce morceau ont été possibles grâce à un progrès mécanique inventé par Erhard. Je veux parler du double échappement. On entend plein de notes répétées de manière très rapprochée. Oui. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un dispositif, je crois, qui permet
de
au marteau,
répéter la note.
Voilà, de frapper la corde de manière répétitive et très rapidement. Oui. Comme ça, on entend une succession de sons très rapprochés. Et on l'entend ici dès le début. Cette valse magnifique fut transcrite pour grand orchestre par Igor Stravinsky pour un ballet qui s'appelait Les Sylphides de Diaghilev. Elle revêtait alors une forme, on va dire, plus proche de la valse viennoise, encore plus dansante, oserais-je ajouter. En version chantée, savez-vous qu'il en existe, hein, c'est devenu un classique polonais, en particulier grâce à la voix de Ewa Demarczyk, puis à la reprise par Justyna Szczeszkowska. Et que dire de Samson François, le pianiste que vous avez choisi, que nous venons d'entendre? Qu'est-ce que vous pensez de lui, Catherine?
Oh, c'est vraiment un très grand interprète de Chopin.
Français?
Français, ouais. Oui, qui a une carrière internationale. Il a joué, par exemple, avec Leonard Bernstein. Il a fait un concerto sous sa direction. Il a une carrière internationale assez brillante.
Il fait partie des artistes français qui sont mondialement connus.
Exactement,
c'est ça?
Oui.
Ouais. Moi, je pense qu'il traduit à merveille ce Samson François, le sous-titre de cette œuvre que vous avez fait entendre, c'est-à-dire la grande valse brillante.
Oui.
L'interprétation est vraiment grande et brillante. Finalement, Catherine, les habitudes d'écoute de vos parents sont au nombre de vos bons souvenirs?
Oui, bien sûr, oui.
Et vous écoutez encore?
Bien sûr, oui.
Et est-ce que ceci, le bain musical familial, a participé à votre, votre devenir de musicienne?
Complètement, oui, bien sûr. Et j'engage les auditeurs à emmener leurs enfants et leurs petits-enfants au concert, à leur faire écouter de la musique. C'est très important.
Et puis aller écouter de la musique vivante.
La musique vivante, exactement.
C'est-à-dire avec des gens.
Avec des gens
vrais
en concert. Au concert.
Ouais, ben voilà. Alors, dans les écoutes de vos parents, il y a peut-être des émissions de radio. Vous parliez tout à l'heure d'une marque de poste que je ne répéterai pas, mais on va parler d'une émission culte.
Oui,
vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est quelle émission?
Radioscopie de Jacques Chancel.
Ouais, oui. C'était tous les jours?
Tous les jours.
Allez, racontez-nous le souvenir.
De 17h à 18h.
Ah ouais, c'est encore l'heure. Voilà. Après l'école?
Je suis allée à l'école assez tard. Et j'ai écouté avec ma maman tous les après-midi. Et même après, quand je suis allée à l'école, on écoutait en arrivant. Et c'était vraiment passionnant, parce qu'il y avait toutes sortes d'invités, pas seulement de musiciens, c'était des acteurs, des chanteurs. C'était vraiment intéressant.
Un générique particulier.
Et surtout le générique, oui, que j'aime beaucoup.
Un générique qui s'appelle La Grande Valse.
Oui.
Peut-être qu'elle était brillante aussi. Et on avait une interprétation très souvent par un groupe qui s'appelait The American Breed. La musique a été composée par Georges Delerue, je crois qu'on dit,
oui.
Un célèbre musicien et compositeur. Et puis, elle est devenue l'indicatif de Radioscopie de Jacques Chancel, certes, mais elle a été composée, le saviez-vous, pour Gérard Oury à l'origine. Parce
c'était
que
pour
ça
un
devait
film.
Être. Voilà, ça devait être un film. Je ne sais pas, mais moi je pense que. En écoutant ce générique, si on fait bien attention derrière une note ou l'autre, on va peut-être entendre la voix de Jacques Chancel qui va annoncer Radioscopie. Alors cette émission n'existe plus à la radio. Allez tiens, j'ai osé dire que RDC a pris un relais quelque part avec cette émission Donnez-nous vos notes, dont aujourd'hui sur 93.4 et 92.5, Catherine Opic est l'invitée. Et quel invité. Autre souvenir de radio, peut-être de télévision même au début, en tout cas, c'est encore Jacques Chancel, c'est Le Grand Échiquier, bien sûr. C'était quoi ça?
Alors, c'était une émission culturelle aussi, où Jacques Chancel recevait des invités en public, en direct, et qui est très longue. Elle durait 3 ou 4 heures. Et on a eu des invités extraordinaires pour ces soirées. Et pour moi, c'était extraordinaire aussi parce que nous n'avions pas la télévision à la maison, mais on allait voir ça chez l'oncle qui habitait à côté.
Et qui lui possédait un poste.
Voilà, c'est ça.
Une télé. C'était l'époque où ceux qui étaient équipés invitaient leurs amis, leurs voisins, les membres de la famille, c'est ça?
Oui.
Alors c'est les dossiers de l'écran aussi, oui. Sûrement. Oui. C'est la piste aux étoiles. C'est au théâtre ce soir, en plus du Grand Échiquier. Mmh. Que de souvenirs. Mmh. Et pour moi aussi, parce que je me rappelle parfaitement avoir regardé Belphégor. Mais sans vouloir le voir quand il apparaissait à l'écran.
Ça faisait très peur. Oui.
Quel trou j'avais à chaque fois. Donnez-nous vos notes. C'est sur RRRDDDCCCC. Revenons à Jacques Chancel et Radioscopie. Voici quelques paroles d'un auditeur. À chaque fois que j'écoute ce petit bijou, je me revois quelques années plus tôt. Il parle du générique. Hein. C'est la fin de l'école. Comme pour vous, Catherine. Je rentre en courant à la maison où je me retrouve au chaud avec un bon chocolat préparé par ma mère qui, elle, est littéralement collée à sa radio en train d'écouter quasi religieusement la radioscopie d'un politique, d'un artiste, d'un intellectuel. Monsieur Chancel, mille merci. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Complètement,
ça
oui.
Ça vous parle?
Ça me parle vraiment.
Ce même auditeur ajoute, aujourd'hui je vis au Canada. Mais à chaque fois que j'écoute ce générique, j'efface d'un seul coup les 40 ans et les 10 000 kilomètres qui me séparent de mon chez-moi. Catherine, pouvons-nous parler du pouvoir de la musique pour ancrer quelque chose dans la mémoire? Est-ce que la musique peut aussi affecter, effacer l'espace et le temps? C'est presque un sujet de philo. Hein. Catherine, auditrice, vous avez 2 heures, peut-être pas, mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la musique ancre quelque chose et est associée à un moment de la vie ou...
Oui, bien sûr. Ouais. C'est vraiment notre Madeleine de Proust, c'est ce que je disais. Dès que j'entends un générique, je suis à nouveau la petite fille qui écoutait. Voilà. Et puis ça permet de voyager
la
dans
musique
le temps.
Transporte
à moindre frais.
Hein,
c'est extraordinaire. On est à l'époque de Bach, à l'époque d'Endel.
Et pour clore sur le sujet, un autre auditeur, voilà ce qu'il déclare. À la seconde où vous réentendez les génériques des émissions que vous avez aimées, vous plongez dans votre jeunesse avec un flot incessant d'images et de sons. C'est ça qui est génial, je trouve, parce qu'on entend quelque chose. Certes, ça fait écho à des sons, mais aussi à des images. Hein. Le souvenir, c'est quelque chose d'extraordinaire, finalement, et qui permet peut-être d'avancer. Oui. On se construit sur ce qu'on a été ou sur ce que les autres nous ont aidés à devenir. On parle de Bach et de Jacques Loussier. Alors, vos sœurs, si j'ai bien compris, comme vous, ont appris le piano avec Gérard Masson.
Oui.
Celui qui sera donc votre professeur aussi.
Oui, tout à fait.
Et ce sont peut-être les sœurs qui ont contribué à vous donner le goût pour le piano.
Oui.
Alors moi, je vais dire aux sisters qui vous écoutent, peut-être aujourd'hui, Catherine, bravo et merci. Parce que c'est aussi grâce à vous que les sœurettes, que Catherine est peut-être dans les studios de RDC ce matin. Alors, les sœurs en question, j'imagine qu'elles écoutaient des chansons de variété.
Oui, de l'époque.
Et donc vous aussi.
Mmh.
Et puis, la musique de Bach, mais interprétée par Jacques Loussier, c'est-à-dire c'est un Bach d'autant plus pour... C'était il y a quelques années, c'est il y a 2-3 ans, c'est ça? C'était un Bach surprenant.
Oui.
Ouais. C'est la suite en ré.
Oui, c'est j'ai ça proposé cet extrait,
ouais,
j'aime
et donc,
beaucoup.
Et donc
c'est une ambiance très particulière.
On l'écoute et on en parle juste après.
D'accord.
Alors voici revue par Jacques Loussier, en trio je crois, de Jean-Sébastien Bach, l'air de la suite en ré. Alors la suite en ré, Catherine, c'est l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, une œuvre de Jean-Sébastien Bach que vous avez choisi de nous faire écouter, avec donc l'interprétation donnée par Jacques Loussier et son trio. On entend bien la contrebasse au début, un petit peu la batterie, et puis peu à peu se construit la mélodie qu'on a l'habitude d'entendre. Alors auditrice, auditeur, je vais vous faire une confidence, j'avais en face de moi une artiste, Catherine Hopi, qui est une musicienne, une pianiste, qui était en train de jouer dans sa tête et de chanter ce qu'elle entendait. Alors, je vous fais la confidence, parce que moi, j'ai la chance de le voir, et pas vous. En ré, ça veut dire que tout à l'heure, vous parliez de mi bémol, c'est aussi une tonalité, c'est ça? C'est une gamme, la gamme de ré majeur.
Oui, de dièse à la clé.
Ah, bravo. Vous voyez, vous avez ordi de trisoliteur, une formation musicale, en même temps, avec Catherine Hopi en direct. Mais une suite, la suite en ré, qu'est-ce que c'est une suite? Là, on interroge l'histoire, non?
Oui, c'est une suite instrumentale. Alors, donc, on va avoir une suite de danse, qui ne sont pas forcément pour danser, mais c'est devenu... Au départ, c'était des suites de danse, vraiment, et qui sont devenues des suites instrumentales. On a gardé le titre et le caractère des danses, mais elles ne sont plus dansées.
Là, c'est donc, on est quand même passé de la suite de danse au départ, la musique est faite pour quelque chose, à la suite musicale, c'est-à-dire la musique qui est faite pour écouter.
Par exemple, dans cette suite, il y a la bourrée.
Oui.
Et donc, on ne va pas danser la bourrée spécialement par rapport à cette œuvre, mais il y a quand même le caractère, on garde le caractère de la danse.
Et plusieurs siècles après, on en vient à du Bach swingé. Si je reprends votre expression, Catherine, c'est ça? Jacques Loussier était, tiens, je vais dire coutumier du fait. Et puis, dans le domaine du chant, il y en a d'autres qui ont fait ça, notamment avec du Bach, les double six, les swingle singers, les voice messengers. C'est les trois groupes qui ont donné, de mon point de vue et d'oreille, de magistrales interprétations. Moins éloignés de nous dans le temps, je vais ajouter quelques autres artistes de la même trempe et qui ont osé la même chose. Les swingle singers 2, 2, la suite, Nathalie Dessay, qui se permet avec réussite des incursions hors de son répertoire habituel, par exemple pour interpréter Michel Legrand ou Claude Nougaro. Et puis je vais encore citer les Itinérantes, un trio magnifique, et enfin les New Voice Messengers et Neyma Naouri. Tout ça fait que, je vais dire, c'est la continuité de l'œuvre, enfin de l'action de Jacques Loussier dans la manière de revisiter.
Il a été un des premiers à faire ce style.
Et puis je ne veux pas oublier les 4L. Je ne sais pas si vous connaissez les 4L, Catherine, mais c'est un quartet vocal de jazz que j'ai eu le plaisir de recevoir dans cette émission amicale. Bonjour à elle, évidemment. Du Bach swingé, dites-vous, Catherine. Tiens, moi, je vais dire du Bach jazzifié. Voilà une belle façon, en tout cas, de repasser son Bach. Mais pourquoi Bach? Parce que c'est quand même... C'est le taulier dans la musique, quand même, non?
Oui, c'est vraiment un incontournable.
Et puis il y a quand même des reprises swingées d'autres, hein. Mozart par exemple.
Mozart,
C'est Walter Murphy qui a pris des libertés, je vais dire, mais avec un beau résultat. Et puis une version pop de la cinquième de Beethoven, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis il y a du Mozart aussi qui est revu disco avec la quarantième. C'est assez surprenant. Alors on vient de parler de danse, Catherine. Ça tombe bien parce que certes la musique, mais associé à la danse, c'est encore de la musique, c'est quelque chose que vous connaissez, en tout cas pour au moins une danse, d'un lieu particulier et privilégié peut-être pour vous.
Dans le sud de la France.
Pays. Ouais, alors dites-nous tout.
Les Pyrénées-Orientales, où j'allais en vacances très souvent, et tous les ans, et plusieurs fois par an, et où je dansais la sardane.
Qu'est-ce que c'est qu'une sardane?
C'est une danse catalane.
Danse traditionnelle?
Traditionnelle, mais qui est vivante. C'est pas comme une danse folklorique où on prend des airs anciens. Là, il y a toujours des compositeurs de sardanes actuellement.
Une continuité. Ils font pas en version de jazz encore?
Ah, mais si, j'ai un ami qui compose des sardanes et justement qui en a fait une un peu... Oui, ça existe, du coup. Et on la retrouve aussi dans le nord de l'Espagne, en Catalogne. En fait, c'est vraiment une danse catalane.
Oui, parce que la Catalogne, c'est à cheval, on va dire.
Voilà, sur l'Espagne et sur la France. Mais attention, il y a la Catalogne du Sud et la Catalogne du Nord.
Attention, ne confondons pas les choses.
Mais en tout cas, on peut danser la sardane à Barcelone, à Rosas et à Perpignan.
Ouais. Et alors, Somni, qu'est-ce que c'est? C'est le titre de ce qu'on va entendre?
Oui, c'est une sardane que j'aime beaucoup.
Ouais.
Donc, qui est jouée par la Coble. C'est le nom de la...
Qu'est-ce que c'est que ça?
La Coble, c'est l'orchestre catalan qui a des instruments traditionnels. Il y a les instruments qu'on connaît, le cor, il y a aussi la tible, La ténor, ça c'est vraiment catalan. C'est des
instruments particuliers.
Des instruments particuliers. Et le cor, il s'appelle fiscorne.
Comment vous dites?
Fiscorne. Ah, ouais. C'est pas comme. C'est une sorte de cor, mais là-bas on l'appelle fiscorne, il est un petit peu différent. Il y a alors, une contrebasse aussi, et il y a un petit faviol qui joue à l'entrée de chaque sardane. Il y a toujours la même ritournelle lancée par le. C'est un fabiole, c'est une petite flûte.
Ah, voilà.
Une toute petite flûte.
D'accord. Voilà. Et puis on voit des danseurs en cercle.
Voilà, la danse, en fait, on se tient par la main. Ouais. Et il y a tout un jeu de pieds, bien sûr. Et ce qui compte, c'est qu'on fasse des nuances et qu'on fasse tous les mêmes nuances en même temps. Il y a un côté musical très intéressant qui n'est jamais la même à chaque sardane. Et il y a quelqu'un qui annonce les nuances, qui nous dit soit. Doux ou fort, ou voilà, et donc on va essayer de danser tous ensemble. Et il y a des concours de sardanes auxquels j'ai participé.
Et alors, avec succès, forcément.
Forcément. Il y a un championnat de sardanes. Et donc, voilà, on est évalué sur l'équilibre des danseurs, sur l'unité, l'uniformité.
Et vous n'avez pas encore exporté la sardane ou importé en Charente ?
Alors, j'ai eu la chance de danser la sardane à Cognac, parce que j'ai des amis qui sont venus, une coble qui a fait on appelle ça les auditions de sardane. Et donc, j'ai pu danser la sardane, c'est il y a quelques années, ça remonte à quelques années. Il y a un aplec à Paris aussi, des Catalans qui se retrouvent. J'ai participé à un aplec. Alors, un aplec, c'est une réunion de... beaucoup de sardanistes, il y a plusieurs cobles qui viennent.
On fait le bœuf danser, c'est ça. Et sur le toit peut-être, oui. Puisqu'on est à Paris. Le terme sardane, c'est la danse et c'est la musique aussi, hein. C'est associé aux deux. Oui. Alors attention.
Juste un petit détail, il faut compter quand on danse, il y a un compte, parce qu'il faut, il y a plusieurs parties, on doit faire une répartie à la fin, on termine avec des pas très particuliers.
C'est très précis.
C'est très précis. Il faut faire un calcul pendant qu'on danse. C'est jamais la même chose non plus. Il faut être matheux aussi.
Mais les maths et la musique, les maths et la danse, ça vient ensemble. Même si parfois on a fait des études de lettres, on y reviendra tout à l'heure. Oui. Auditrice, auditeur, attention, je vais faire un décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez 5 secondes pour pousser la table et pour vous mettre en situation pour danser la sardane. Quant à nous, avec Jean-Marc et Catherine, c'est fait. Nous sommes prêts. 5. 4, 3, 2, 1, top. Top. Petite précision sur la sardane, Catherine, ce qu'on vient d'entendre peut-être.
Alors, donc là, on entendait une belle mélodie qui était jouée par la ténor. C'est l'instrument principal, on va dire, de la coble, qui est très, très expressive, qui a un son un peu très profond, très...
Qui est prenant.
Prenant, voilà. Et qui peut exprimer beaucoup de choses.
Ouais. On revient au piano.
Oui.
Parce que on va parler d'improvisation. Alors, est-ce que c'est une vraie improvisation, une fausse? Vous allez nous le dire. C'est extrait, en tout cas, des pièces brèves de Gabriel Fauré. Et qui est-ce qui joue dans ce qu'on va entendre?
Je crois que c'est moi.
Moi, je crois pas, moi, je suis sûr. Allez, on écoute tout de suite. Attention, quatre. Alors, confidence, nous n'avons pas le piano, le Bösendorfer, ni le Yamaha, ni quoi que ce soit dans le studio. Donc, c'est un enregistrement.
Maison, je ne sais pas ce que ça donne.
Mais c'est Catherine au pic. La voilà. Thank you. Alors ça, c'est associé à votre professeur, forcément, puisque vous me dites que c'est le souvenir de la préparation d'un examen.
Oui. C'est ça ? Oui, oui, au conservatoire.
Donc Gérard Masson.
Hier, c'était hier.
Oui, oui, bien sûr, avant-hier. Allez, soyons francs, avant-hier. Mais pas plus. Gérard Masson, on y revient. Hein. Alors Gabriel Fauré, on vient de fêter en 2024
le centenaire.
Donc pas de fêter, de commémorer le centenaire de la mort, fêter la mort de quelqu'un. Et puis les pièces brèves, ça constitue un cycle de 8 pièces dédiées à Madame Jean-Léonard Cochelin. Les titres des 8 pièces, c'est Capriccio, Fantaisie, Fugue, Adagietto, Improvisation, Fugue, Allégresse, Nocturne. Alors ça veut dire parcours, Catherine, que vous avez un parcours au conservatoire d'Angoulême.
Oui,
c'est ça.
J'ai fait mes études là.
Gérard Masson, piano, et puis d'autres choses.
Oui, j'ai fait du clavecin avec Pascal Dubreuil, et aussi du chant avec Claire Pouplein, de l'harmonie avec Monsieur Bourdin,
et puis de la formation,
et
musicale,
la formation musicale,
etc. Oui. Alors Gérard Masson, passé pour un homme au caractère bien trempé, c'est vrai?
Oh oui. Oui.
Sévère, exigeant.
Sévère, exigeant, oui.
Capable d'humour un peu quand même.
Oui, il avait un humour assez caustique, mais il plaisantait aussi, mais il était très exigeant et pouvait lancer les partitions des élèves qui n'avaient pas travaillé en leur disant « Tu reviendras la semaine prochaine.
» est-ce que c'était une vitrine, je vais dire, ou est-ce que c'était vraiment lui quand il était instrumentiste, quand il jouait? Est-ce que sa musique, quand il jouait, c'était raide, c'était où?
Ah
c'était...
non, pas du tout. Au contraire, c'était la générosité même et l'expression et la sensibilité. Et il m'a donné vraiment le goût de la musicalité. Je lui dois beaucoup.
Il avait des compositeurs favoris? Bach, je ne sais pas.
Bach, Scarlatti, Rachmaninoff.
Beethoven, Chopin,
bien sûr, les grands classiques. Mais oui.
Alors, je vais faire un aveu public, oui, ou presque. Je vais avouer que c'est le premier pianiste que j'ai entendu en concert à Angoulême. J'avais peut-être 7 ou 8 ans, donc vous voyez, c'était avant-hier. C'est un très beau souvenir. Quelque temps après, j'ai aussi entendu dans la salle philharmonique d'Angoulême, hein, qui existait à l'époque, n'existe plus, place du commandant Rénal, là où est le conservatoire maintenant, celle qui deviendra mon professeur de piano, mon prof à moi. Ce n'était pas Gérard Masson, c'était Brigitte Boutinon-Dumas. Je me permets à distance de la saluer et même de l'embrasser, très respectueusement et très affectueusement. J'ajoute que j'ai encore dans l'oreille, vous voyez, on parlait de la musique qui permet de se souvenir du son et de l'image, et j'ai encore dans l'œil les notes du Carnaval de Schumann, l'œuvre qu'elle avait alors donnée lors de ce concert. Et puis là, auditrice, auditeur, je viens d'écouter une pianiste qui me rappelle en quelques minutes ces deux moments vécus, à jamais ancrés dans ma mémoire. Alors merci Catherine, merci mille fois. On voit qu'on doit tous quelque chose à un enseignant, voire à plusieurs enseignants. Vous êtes d'accord, Catherine?
Oui.
Vous devez à Gérard Masson beaucoup de choses.
Oui, oui, oui.
Et puis je vais... Oui, bien sûr. Quel que soit le domaine, hein, là on parle de musique même. Auditrice, auditeur, je vais ajouter que ce que nous venons d'entendre est interprété par Catherine, certes, mais je veux surtout ajouter que on entend une conjugaison de sa virtuosité et de sa musicalité. Avec... ceux qui partagent la musique avec vous, Catherine, je suis sûr que je ne suis pas le premier à vous le dire. Alors merci et bravo. On parlait de Rachmaninoff tout à l'heure, un des compositeurs favoris de Gérard Masson. Voici, alors vous parlez de Madeleine de Proust, vous avez choisi, merci, une de mes Madeleines de Proust à moi. C'est le prélude en Do dièse mineur. Qu'est-ce que c'est qu'un prélude? Alors on a parlé de l'ouverture et du prélude de Carmen tout à l'heure. Il y a un lien? C'est aussi quelque chose qui est joué avant quelque chose?
Oui, en général c'est joué avant une pièce plus importante, c'est le terme consacré, on dit un prélude. Il y a les préludes et fugues de Bach par exemple, le célèbre clavier bien tempéré, où il y a un prélude et une fugue associés dans une tonalité, la même tonalité. Et donc le prélude permettait de prendre contact avec l'instrument, de rentrer...
Je crois que si on remonte dans l'histoire, ce qui est devenu le prélude, c'était aussi le moyen de chauffer l'instrument,
oui,
et de
exactement.
Permettre de l'accorder après le prélude. Hein,
c'est ouais. Ça.
On va entendre donc ce prélude dans Do dièse mineur de Rachmaninoff, interprété par qui? Par Vladimir
Horowitz,
c'est ça?
C'est ça.
Alors c'est un pianiste majuscule, vous êtes d'accord?
Ah oui.
On l'écoute tout de suite, on en parle après?
Très volontiers.
Allez, préludons s'il vous plaît, en Do dièse mineur. Alors, il arrive que des instrumentistes jouent quelque chose d'un compositeur et que le compositeur soit dans la salle. Qui a le plus le trac à ce moment-là, celui qui joue ou celui qui entend ce qu'il a écrit, je ne sais pas. En tout cas, Rachmaninoff avait fait l'éloge de l'interprétation d'une de ses œuvres, ce n'était pas celle-ci, interprétée par Horowitz. C'était le troisième concerto pour piano. Et c'est quand même rare d'entendre ça et d'avoir le souvenir, une trace de ça, c'est que après avoir entendu Horowitz jouer cette œuvre, il a refusé de l'interpréter lui-même. Alors que dire lorsque le compositeur considère l'interprétation par un autre que lui d'une de ses compositions, l'interprétation, il pense qu'elle est supérieure à la sienne, c'est on touche au sublime, c'est ça?
Oui, forcément.
Et ben oui, pour revenir à l'œuvre qu'on a entendue, un commentaire d'un auditeur. Il dit quelques mots, mais qui décrivent parfaitement ce qu'on vient d'entendre du prélude en do dièse mineur de Rachmaninoff. C'est interprétation, tout simplement, parfaite, merveilleuse. Ça transporte tout de suite, ça prend aux tripes, ça prend à l'esprit,
dès le premier
ça
accord,
prend au cœur, ça prend à l'âme. Alors Rachmaninoff, il a écrit trois séries de préludes, dont celui-ci, qui est peut-être parmi les plus célèbres.
C'est le plus célèbre, oui.
Et au total, on peut entendre 24 préludes écrits dans toutes les tonalités majeures et mineures, 12 et 12, comme une réponse aux 24 préludes d'un autre compositeur. Je veux parler de Frédéric Chopin. Et pour renforcer la filiation, l'un des préludes de Rachmaninoff, le 22e, s'intitule « Variation sur un thème de Chopin ». Tout est dit.
Voilà.
C'est vraiment...
On lui demandait souvent en bis ce prélude.
Et contrairement au prélude de Chopin, ceux de Rachmaninoff n'ont pas vraiment de structure qui les relie. Ça veut dire qu'il avait rapidement pris l'habitude de ne jouer qu'une sélection, sa sélection, de ses préludes. Et donc le prélude n'était plus forcément, notamment en bis, quelque chose qui était destiné à être joué avant l'œuvre elle-même, avant le concert lui-même.
Oui.
Une des invitées de l'émission, je veux parler d'Aurélie Glicos, elle avait également témoigné son admiration pour Vladimir Horowitz. Alors je la salue, c'est Aurélie Glicos, et je lui souhaite le meilleur pour le prochain festival Onde Marine qu'elle est en train de préparer. Catherine, je me permets, allez, un conseil, tiens, celui de profiter, si vous le pouvez, de ce festival, parce qu'il a une qualité musicale extraordinaire, et puis une qualité humaine, parce qu'il a une volonté d'ouverture à tous les publics. Un point commun entre Aurélie Glicos et vous, Catherine Opic, c'est que vous êtes deux fans de Vladimir Horowitz, bien sûr. Je crois que...
Mais un jeu très inspiré, très virtuose. On ne peut pas rester indifférent devant ce...
Je crois qu'on n'est plus vraiment le même avant et après avoir entendu Horowitz. Ça pouvait arriver pour d'autres instrumentistes, peut-être, des guitaristes ou des... que sais-je encore.
Ah, oui, ça vous fait penser à un concert auquel j'ai assisté au Théâtre d'Angoulême avec Paco de Lucia, un guitariste. J'étais avec ma maman et c'était pour un salon de la BD justement. On va avoir le salon de BD à Angoulême là. Et donc j'ai entendu cet interprète sur scène et je ne suis pas ressortie du théâtre comme je suis rentrée. Vraiment, ça m'a émerveillée.
Donc, la part de l'humain, on parlait de musique vivante.
Il y a eu un avant et un après ce concert, vraiment.
La part de l'humain est fondamentale. Le ressentir la musique et puis la faire ressentir à l'autre.
Pourtant, une petite guitare sur un théâtre, la scène est loin. Et pourtant, on recevait quelque chose de merveilleux, vraiment. C'est un très grand souvenir.
Pour revenir à des pianistes, des pianistes majuscules, moi je les appelle comme ça, on va dire qu'on a les sœurs Labec quand même, Katia et Muriel.
Ah oui, qu'on voyait au Grand Échiquier avec Jacques Chancel. Ah,
absolument. Et puis tiens, une charentaise, c'est Claire Désert.
Oui.
Et moi, j'aime beaucoup Yuja Wang. Et puis évidemment, Katia Bounetchizvili, ça c'est sûr.
Oui, bien sûr.
Et puis avec d'autres...
On l'a vu cet été à Royan.
Avec d'autres, ceux que vous avez retenus aujourd'hui. Catherine, et parmi ceux que vous avez retenus, il y en a un qui s'appelle Ivo Bogorelic.
Ah,
alors qui c'est celui-là? C'est un de vos pianistes préférés?
Oui, tout à fait. Oui. Et j'ai eu la grande chance de le voir il n'y a pas longtemps au Festival Piano en Valois cette année. Il est venu, c'était pour moi, c'était vraiment, j'attendais ça avec grande impatience parce que je l'écoute depuis très longtemps. J'ai un disque fétiche que j'écoute régulièrement, ce sont les sonates de Scarlatti qu'il a interprété. Mais on peut l'écouter dans n'importe quoi. C'est vraiment très très précis, très dense, très...
On peut l'écouter dans n'importe quoi, parce que c'est un pianiste croate, adepte de la plupart des répertoires du baroque au contemporain. C'est-à-dire que la palette est très large.
Oui.
Il y est particulièrement connu pour son style de jeu, devenu de plus en plus excentrique avec
oui,
les
il a des interprétations originales.
Ce qui a pu susciter à la fois adoration et détestation auprès du public et des critiques musicaux, mais quand même, ça reste. Et sa renommée est là.
Il a un art du toucher extraordinaire. Ouais. Vraiment, il sait faire chanter un piano comme personne.
Alors, sa renommée est peut-être pour partie due à une participation au prestigieux concours international de piano Frédéric Chopin de Varsovie. Alors, vous connaissez l'anecdote, je suppose, Catherine ?
Oui, il a donc participé à ce concours et il a divisé le jury, on va dire. Il n'a pas été mis premier, je crois, et Martha Argerich a quitté le concours en claquant la porte parce qu'elle était...
Il n'était pas maintenu pour la suite du concours
et ça l'a choqué parce qu'elle avait beaucoup apprécié. Voilà.
Ouais. Alors bon, l'anecdote, certes, mais le talent quand même. Et puis ça a déclenché sa carrière.
Oui, finalement, on en a parlé et peut-être ça a participé de son succès.
Comme quoi, les sentiers de la gloire sont parfois un peu surprenants, c'est ça. Petite cause, grands effets, l'effet papillon. Mm. Ouais. Il est depuis assez longtemps considéré comme un artiste de la trompe des plus grands quand même, hein, ce Ivo Pogorelitch. Mm. On le compare à Vladimir Horowitz, dont nous venons de parler, et puis Arturo Benedetti Michelangeli, dont nous reparlerons tout à l'heure.
Évoquant
un autre pianiste qui a croisé les rues d'Angoulême, Alberto. Allez, on écoute.
Oui.
Qu'est-ce que c'est déjà le titre ? C'est la première sonate de Domenico Scarlatti. Et c'est par Ivo Pogorelitch en mi majeur.
En mi majeur.
Ah ouais.
Voilà.
Combien de dièses ?
Donc là, c'est 4 dièses.
Ah voilà. Catherine, vous avez évoqué Festival Piano en Valois. Qu'est-ce que c'est ça ?
Ah, c'est un festival de piano qu'on a la chance de pouvoir apprécier ici en Charente. Alors, il y a quelques concerts au théâtre et puis aussi dans les...
Un peu partout en Charente. Salles, ailleurs, ici ou là. C'est bien que les salles puissent accueillir des concerts de cette envergure.
Exactement.
Je crois que c'était la 31e édition 2024, pourvu que ça dure.
C'est très varié, le programme.
Ouais, et puis c'est une rencontre, je crois, entre le répertoire très ouvert, mais entre des légendes du piano
et des plus jeunes.
Et avec une ouverture au jazz, tiens, on revient au bac jazzifié. Bref, il y a plusieurs milliers de spectateurs qui s'y retrouvent. Merci et bravo aux organisateurs et au soutien de ce festival. Et puis c'est le clin d'œil à l'ami Gérard Fauvin, qui fournit, je vais dire, les pianos en général à ce festival. C'est aussi le clin d'œil aux deux directeurs artistiques, Jean-Hugues Gadard et Paul Arnaud Puyajouan. Alors pareil, hein, je lance l'invitation, Gérard, Jean-Hugues, Paul Arnaud, je vous invite quand vous le pourrez. On a parlé de sonate, qu'est-ce que c'est qu'une sonate, Catherine ?
Alors une sonate, c'est une forme musicale bien spécifique qu'on retrouve à plusieurs moments de la musique. Mais là, en l'occurrence, dans les sonates de Scarlatti, ce n'est pas la forme habituelle. Parce qu'en sonate, c'est vraiment un mouvement avec un thème A, thème B, un développement, etc. Et en fait, là, on a ce terme pour les sonates de Scarlatti, mais ce sont des œuvres qui n'ont pas du tout cette forme. On a retenu ce nom, mais...
C'est peut-être qu'elle est destinée à être interprétée par des instruments à vent qui sonnent, quoi, qui résonnent.
Ah oui.
C'est opposé à la cantate, tiens, parce que la cantate, ça se chante.
C'est chanté.
Et puis à la toccata, parce que la toccata, c'est
instrument
qui ont des touches, comme
l'or,
le clavecin ou le piano. Et pourtant, on peut avoir des sonates qui sont jouées avec des instruments qui ont des touches. Bref, allez, on a parlé de dièses, et il y a forcément des bémols, je crois, des bécaires, etc. Donc on revient à la formation musicale, quelque part, avec l'œuvre suivante. C'est Solfeggietto de Bach, mais pas Jean-Sébastien.
C'est Carl Philippe Emmanuel.
c'est ça ?
C'est, oui, un des deux fils donc, dont on a gardé vraiment...
Ouais, parce que les fils de Bach, il y en a eu beaucoup.
Une vingtaine, je crois. Oui, il y a plus de 24, enfin 24 en France, je crois. Ouais. Alors avec deux femmes, en plus. Ouais. Donc elles ont... et donc solfeggietto, on disait...
Alors c'est solfeggietto, oui. Et c'est interprété en trio. C'est aussi un écho à Jacques Loussier. C'est Luca Sestak, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et il y a deux commentaires que je livre tout de suite. Quel cadeau ce pianiste ! Un autre commentaire, Jean-Sébastien Bach, Carl Philipp Emanuel Bach et Jacques Loussier applaudissent, eux aussi, s'ils s'entendent, c'est sûr. Vous êtes d'accord ?
Ah oui, vraiment.
Alors il va falloir le prouver. Il va falloir le prouver en écoutant quoi ? En écoutant solfeggietto en trio jazz. Solfeggietto, ça s'appelle, c'est un nom étrange, ça c'est peut-être le diminutif de solfeggio,
ouais,
c'est,
oui.
C'est le mot solfège en italien,
ça
c'est
donne ça. Un petit côté sympathique.
Oui, et puis un côté affectif, tiens.
Oui, affectif. Hein,
et puis en tout cas, on a un caractère éducatif, parce que son nom, justement, cette œuvre fait référence au solfège. Il est souvent proposé à des élèves de piano.
Oui, oh, je l'ai souvent fait travailler, oui.
Et il paraît qu'il peut être entièrement joué avec une main, la main gauche.
Oui, on peut choisir, parce qu'en fait, c'est une écriture... il n'y a qu'une voix. Il y a très peu d'accords, il y en a quelques-uns, mais vraiment...
Arpège, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc oui, c'est à base d'arpège, de gamme et d'arpège. Oui, oui.
Ouais.
Mais quand j'ai entendu cette version, j'ai eu envie de l'écouter comme si je ne la connaissais pas, en fait. Je l'ai mis en boucle la même semaine plusieurs fois, parce que vraiment... Je
trouve Ad libitum.
Oui, c'est ça.
Alors, je peux vous dire quand même, auditrice, éditeur, que à deux mains, c'est déjà pas simple à jouer. Alors, à une, je vais oser, tiens, il ne faut pas être gauche. Les notes, le rythme, le tempo,
oui.
Bonjour. Encore une fois, Catherine, vous nous proposez une partition classique jazzifiée, c'est original, vais-je dire. C'est chouette, moi,
oui.
Je trouve. Merci.
Et c'est une façon de réécouter ces œuvres qu'on connaît, mais
et
avec un angle différent.
Et de dire que la musique n'est pas figée, finalement.
Exactement, qu'elle évolue. Et j'aime bien utiliser ces versions pour présenter à mes élèves aussi, pour leur... Il y a beaucoup de jeunes qui aiment Lucas Stetzak, là, qu'on vient d'écouter, parce qu'il est sympathique, et puis sa musique est très bien.
Merci beaucoup. Donc Catherine, pour en arriver là, on a parlé de la formation musicale, mais je crois que vous avez fait un petit tour au lycée Camille Guérin, c'est Poitiers, ça, non ?
Oui, oui, oui. J'ai fait des études de lettres également.
Hippocagne, qu'est-ce que c'est ça ?
Hippocagne, c'est lettres supérieures.
Donc c'est après le bac ?
C'est après le
pas
bac.
Pas Jean-Sébastien, le bac.
Bac BAC, oui. En effet.
Un petit tour à la fac de Poitiers ?
Oui, en
lettres. Et musique ?
Et en musicologie.
L'histoire de la musique, donc, vous l'avez forcément étudié.
Oui.
L'harmonie au clavier.
Oui.
Alors, quelle est la différence entre l'harmonie et l'harmonie?
Alors, l'harmonie, c'est un exercice à table, sans instrument.
Sur table.
Pas sur
à
table.
Table. Non, je sais bien, c'est bien que l'on mange, mais quand même.
Sur table. Et on a un chant ou une base donnée. Il faut remplir à quatre voix. C'est un exercice vraiment intellectuel, hein. Mmh. Voilà, avec les règles de l'harmonie qui sont très précises.
Ouais. Et au clavier, alors ?
Alors, l'harmonie au clavier, c'est avoir des réflexes d'accompagnement. C'est souvent un chant donné et il faut donc trouver les accords qui vont aller avec cette mélodie-là.
Okay.
Parce qu'on n'a pas... il existe la basse continue que j'ai faite aussi au conservatoire, où là on a les accords et une basse continue.
Ça, c'est Florence Manzani qui nous a parlé
parce qu'elle
est claveciniste et on a un écho là avec Catherine, c'est bien.
Oui, voilà. Donc quand on fait du bac et qu'on est claveciniste, on a une basse avec des accords marqués et on crée l'harmonie qui va aller bien.
On invente sur place.
On improvise l'accompagnement. Et dans ce cours d'harmonie au clavier, on avait souvent un chant et qu'il fallait trouver les accords là. fallait trouver l'harmonie. C'était une épreuve d'examen. Et on avait une mélodie et on devait trouver les accords qui allaient bien avec la mélodie et faire l'accompagnement. Donc il faut travailler les enchaînements, bien sûr, parce qu'il faut des réflexes.
Et que ça vienne automatique.
Et que ça vienne automatique.
Après, on a classe de chant, on en a parlé avec Claire Pouplein, clavecin avec Pascal Dubreuil, vous avez dit.
Oui.
Et puis donc des examens dans le cadre de la Trinity College of London, avec un professeur d'origine australienne, je crois.
Oui, Marie-Thérèse Driscoll.
Ouais. Et donc c'était dans quel domaine musical ça?
Là, c'était dans le chant.
Mm-hmm. Mm. Et puis vous avez fait écrire un mémoire sur l'histoire du Conservatoire d'Angoulême, je crois.
Oui, ça c'était dans le cadre de ma maîtrise justement de musicologie.
Mm-hmm. Et il vous arrive de donner des conférences sur les femmes compositrices, c'est ça?
Oui.
C'est lié avec l'histoire du Conservatoire ou pas?
C'est-à-dire que, en fait, c'est parti, comme j'ai fait la conférence sur le Conservatoire, et à un moment donné, je parlais des jeunes filles qui n'étaient pas autorisées à venir à l'école de musique au départ. Au Conservatoire, elles sont venues qu'au début du XXe siècle, mais au départ, il n'y avait que des garçons.
Eh ben oui.
Il était hors de question que les filles fassent des instruments à vent, tiennent un violoncelle, etc. Non, c'était réservé aux garçons. Donc, j'ai dit, oh là là, oui, et puis les femmes compositrices dont on ne parle pas beaucoup. C'est un prochain sujet de conférence. Mm-hmm. Et il y avait quelqu'un qui était dans la salle qui dit, on vous réinvitera. Et c'est parti comme ça. Donc, je me suis intéressée à la question.
Très bien. Alors, parmi les femmes compositrices, vous venez d'y faire allusion, on pourrait parler de Barbara Strozzi.
Oui.
Elle était aussi appelée Barbara Valle. C'est une compositrice et chanteuse italienne de la période baroque. Vous voyez, c'est pas hier matin. Hein. C'est la première compositrice professionnelle.
Elle, officielle, effectivement. Qui a été imprimée, éditée.
Au cours de sa vie, elle a publié 8 volumes de sa propre musique et a publié plus de musique profane que tout autre compositeur.
Et un recueil de musique.
Voilà. Ensuite,
si religieuse.
Une interprète qui s'appelle Maria Cristina Kier. Et alors, qui c'est ça? C'est une soprano?
C'est une soprano d'origine argentine et d'un pays du Nord aussi, je ne sais plus lequel. Et je l'ai rencontrée lors d'un stage à Barbaste. J'ai fait un stage de chant.
C'est dans le Lot, non?
Oui, c'est ça. Et il y avait clavecin et chant, c'était très intéressant, parce qu'on avait monté une cantate de Bach, justement. Mmh. Et donc, j'ai rencontré cette chanteuse qui... Voilà. Quand j'ai fait ma conférence, j'ai repensé à elle, et elle avait enregistré ce disque sur Barbara Strozzi.
Salvé Regina de Barbara Strozzi par Maria Christine Kier, c'est ça?
Oui.
Et c'est maintenant. Presque maintenant. Elle s'installe, elle accorde le clavecin et ça va incessamment démarrer. Catherine, au total, on voit que votre formation est, je vais dire, multiforme finalement. Certes, il y a la musique, mais il y a l'à côté de la musique, les lettres. Et puis dans la musique, il y a toutes ces directions que vous avez évoquées. Catherine Opic, pianiste, mais pas seulement. Et je crois que c'est toujours une richesse d'aller chercher plus loin, ailleurs, d'aller à la rencontre de l'art, de la musique et de ceux qui la font, sous toutes ses formes, ici, là, partout, hier, aujourd'hui, ce matin, ce jeudi matin, 23 janvier, auditrices et auditeurs, nul doute que notre invitée soit détentrice de cette richesse. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Et voici le moment du jeu, Catherine, le savez-vous, sur RDC, dans Donnez-nous vos notes, on joue. Qui joue? Toutes les auditrices, tous les auditeurs. Qu'est-ce qu'on gagne? Un DVD et une invitation à venir assister à la diffusion en direct d'une émission de Donnez-nous vos notes depuis les studios de RDC, la station qui émet sur 93.4 et 92.5. Comment on gagne? En composant le numéro du standard de RDC sur son téléphone et en donnant la bonne réponse à la question que je vais poser dans quelques instants. Attention, Seule gagne la personne qui aura donné la bonne réponse, la première. Précipitez-vous dès la question posée, auditrice, auditeur. Voici le numéro, c'est le 05 45 95 09 87. 05 45 95 09 87. La question du jour, la voilà. Catherine, vous n'avez pas le droit d'aider, s'il vous plaît. Quelles sont les deux couleurs habituelles des touches d'un clavier de piano, l'instrument dont joue notre invitée du jour, Catherine Aupic? Quelles sont les deux couleurs habituelles des touches d'un clavier de piano, l'instrument dont joue notre invitée ce jeudi 23 janvier? On attend évidemment vos appels au 05 45 80 09 87. Précipitez-vous, c'est la seule première bonne réponse qui sera déclarée vainqueur. Catherine, on parle de, tiens, allez, on fait une fantaisie en fa mineur cette fois, c'est encore une espèce de tonalité, ça c'est ça, il y a des dièses, des bémols sûrement, mais en tout cas, elle va être interprétée à quatre mains, c'est la fantaisie en fa mineur de Franz Schubert, par Martin Gerich, vous en avez parlé d'elle déjà, mm-hmm. et par Pablo Galdo, c'est ça mm-hmm. Alors Pablo Galdo, c'est un pianiste espagnol qui a partagé la scène avec des pianistes de renom, comme Martin Algerich, que nous allons entendre avec lui tout à l'heure, Zoltán Kozy, Stefan Kovacsik, etc., etc., etc. Il a aussi joué avec d'autres instrumentistes très célèbres, violoncelliste Aster Polo, la flûtiste Suzanne Barner, le violoniste Geza Osu-Legucci et l'altiste Rocío Gómez. Il partage son temps de musicien entre les concerts, des activités d'enseignement dans des conservatoires prestigieux, et puis il est aussi directeur artistique de festivals ou de concours internationaux. Il arrive même qu'il donne des masterclass. Qu'est-ce que c'est une masterclass, Catherine ?
Alors une masterclass, c'est quand on invite un grand professionnel à venir dans un établissement d'enseignement musical, au conservatoire par exemple, ou une école de musique. Et il va donc écouter des élèves et leur donner des conseils.
Des pistes pour aller encore
des
plus
pistes,
loin.
Voilà, c'est ça.
En concordance, je vais dire, avec, en accord, tiens, puisqu'on parle de musique, avec le prof habituel de l'élève, oui. Alors on écoute une fantaisie en fa mineur pour piano à quatre mains de Franz Schubert par Martha Gerich et Pablo Galdo, pardon. Moi j'ai envie de dire quand même que si je regarde et si découvre ou pas ces deux artistes, ils sont pas de la même génération. Il y en a une, Martha Gerich, qui est quand même plus âgée. Ça veut pas dire qu'elle peut plus jouer du tout. Hein. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette forme de partage, de transmission. C'est important la transmission.
Ah oui, oui. J'aime beaucoup jouer avec mes élèves, par exemple.
Ouais. Et pourquoi c'est important?
C'est important parce que on apprend beaucoup les uns des autres, en fait. Mmh. Quand il y a quelqu'un d'un peu plus expérimenté, je pense qu'on peut apporter, et les jeunes peuvent avoir une autre vision aussi, c'est dans ce sens-là, mais toute musique est partage, hein. C'est ça qui me plaît aussi dans la musique.
C'est en ça aussi que c'est intéressant, c'est oui. La musique et puis le côté humain. On écoute donc la fantaisie en fa mineur de Franz Schubert par Martha Argerich et Pablo Galdo, c'est ça?
Oui.
C'est maintenant. Catherine nous parle de la rencontre. Une autre forme de rencontre, c'est reprendre, retranscrire, réécrire, réinterpréter des morceaux très célèbres, dont la 5e symphonie de Beethoven, par exemple. Elle est transcrite pour piano à quatre mains. Transcription, ça veut dire qu'elle est réécrite. Et cette fois, on a Yung Ming Lee et Jae Yuk Cho qui sont à l'œuvre. Et à l'œuvre, c'est le mot. La surprise est de taille pour cette écoute, mais c'est une très bonne surprise, une très belle surprise, avec l'interprétation de cette célébrissime 5e symphonie, en tout cas un extrait, deux pianos contre un orchestre. C'est le deal proposé, c'est une forme d'échange. Et alors cette 5e symphonie, on l'écoute maintenant, en tout cas dans la transcription, pour piano à quatre mains. Jouer avec d'autres, jouer pour les autres, c'est important pour un public, mais jouer pour les autres avec d'autres, c'est important.
Ah oui, très important, oui. C'est quand même la fonction de la musique première.
Ouais,
c'est
important quand on est seul, à jouer en soliste. Ah. On n'est pas avec d'autres, là.
Oui.
Mais bon, on est avec un instrument.
Oui.
Et c'est aussi
un dialogue,
une forme de partage. Mm. Alors, cette 5e symphonie, ça fait peut-être écho à un moment particulier de votre formation, quand vous avez rencontré Ernst Schelle, je crois, c'est ça?
Oui.
Allez,
oui.
Dites-nous.
J'ai participé à deux stages avec ce chef d'orchestre. C'était un stage de direction d'orchestre.
Il a été chef d'orchestre de l'orchestre Poitou-Charentes, ça s'appelait à l'époque. Hein,
oui. Ouais. Maintenant, il est chef d'un orchestre au nord de Paris.
Mm-hmm.
Oui. Il est toujours chef. Ouais. Ouais. Et c'était une expérience extraordinaire, oui.
Et alors, fallait faire démarrer quoi? Fallait commencer quoi? Justement.
On a fait plusieurs œuvres et effectivement, il y a eu un moment, c'était la 5e symphonie de Beethoven.
Ouais. Alors, quel effet ça fait?
C'est une sensation extraordinaire, oui.
C'est sans doute un des grands moments que
oui,
vous avez vécu, musicaux, je veux
oui,
dire.
Oui. C'était des élèves brillants, des instrumentistes d'orchestre qui faisaient les stages. Donc tous les élèves étaient eux-mêmes instrumentistes et chefs. On était tous...
Chacun son tour.
Chacun son tour. Oui.
Alors, quand on est à quatre mains, ça fait deux pianistes.
Oui.
Mais quand on demande d'interpréter quelque chose pour quatre claviers, c'est ce que Jean-Sébastien Bach a fait. En tout cas, il a écrit un concerto pour quatre claviers, c'est ça?
Oui.
Alors, on va écouter un extrait avec quatre pianistes de talent.
Oui.
On remarquait quand même hein, que de deux pianistes tout à l'heure, nous voici à quatre. Grâce à vous, Catherine RDAC ne recule devant rien ce matin. On a David Frey, Jacques Rouvier, Emmanuel Christian et Christiane peut-être, et Audrey Vigoureux. Ils jouent avec un magnifique ensemble à cordes, celui issu de l'Orchestre National de la Capitale de Toulouse quand même. Catherine, vous nous gâtez aujourd'hui, vraiment. Merci, et puis merci. Le concerto pour quatre claviers de Jean-Sébastien Bach, c'est maintenant. Un auditeur a fait un commentaire de cette œuvre-là et de cette interprétation, et il a souligné le fait qu'on entend, on vise quatre sons qui ont du sens comme un seul son. Faire un son à partir de plusieurs un son qui a du sens musical, s'entend, c'est un bel objectif, bien au-delà, je crois, de celui qui consiste à rendre note à note ce qu'on a appris, ce qu'on sait plus ou moins. Mais comment y parvenir, Catherine, selon vous? Comment faire pour que le son vive et qu'on rende le son vivant ensemble pour soi et pour les autres?
On respire ensemble. Je pense que c'est très important déjà de respirer ensemble. C'est du ressenti, c'est le travail en amont, certainement, oui. La discussion qu'on a pu avoir avant. Pour un échange aussi au niveau du choix des interprétations, parce que l'interprétation, c'est très important. C'est passionnant d'ailleurs, cette place de l'interprète dans une œuvre. C'est ce qui la rend vivante, mais ouais. c'est la partie.
L'interprète, c'est celui qui traduit quelque
qui
chose.
Traduit quelque chose.
Qui rend vivant la musique écrite, quoi, la musique en concert, oserais-je dire. Mm-hmm. tout à l'heure, on a entendu Catherine Opic, soliste, hein, qui nous jouait du Forêt. Et maintenant, on va entendre Catherine Opic dans un trio tout neuf, tout récent. Et ce trio s'appelle le trio LJCC. C'est bizarre comme nom de trio. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est Lijing, Catherine et Christian. On a pris...
C'est les prénoms des trois personnes qui constituent...
On a cherché assez longtemps. C'est pas évident de trouver un nom de formation. Et voilà.
LJ2C.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va entendre de ce trio?
Alors, c'est la Conocchia, c'est un chant napolitain de Donizetti. Mmh. C'est une transcription, là aussi, parce qu'en fait, c'est prévu au départ pour une chanteuse et un piano.
La chanteuse, c'est la fileuse, c'est la Conocchia, ça veut dire fileuse. Hein.
Voilà.
Et là,
on a fait un dialogue avec la chanteuse et l'harmonica, et puis le piano que j'interprète.
Donc, Lijima, c'est la chanteuse.
Oui.
Christian, c'est l'harmoniciste,
voilà.
C'est comme ça.
Mmh.
S'ils sont à l'écoute... Évidemment, on leur fait un petit coucou, on les salue. Et s'il vous plaît, Catherine, je vous demande d'être ma messagère pour leur dire que, pourquoi pas, leur prochaine venue dans cette émission, et avec vous, parce que le trio LJCC peut tout à fait être invité de donner une note sur RDC 93.4 et 92.5. On écoute la Conocchia, c'est l'histoire de la fileuse qui veut chanter quand elle veut attirer l'attention de son chéri,
voilà, à la
de
fenêtre.
Son crèche. C'est maintenant, c'est le trio LJCC. C'est beau, moi, je trouve. Bravo à vous. Ça donne envie de vous réentendre et de vous revoir. L'un va souvent avec l'autre, hein, par rapport à la musique vivante. Allez, on faisait allusion à lui tout à l'heure. Ouvrons le chapitre Alberto Neumann. Alberto Neumann, c'est une précieuse rencontre pour vous?
Ah oui, tout à
Pourquoi
fait,
ça,
oui.
Hein
écoutez, c'était un ami, un professeur de mon mari aussi, Julien Pic, qui a travaillé avec lui.
Mmh.
Et nous l'avons rencontré plusieurs fois, nous sommes allés en concert et nous déjeunions souvent ensemble. Et on a beaucoup échangé et nous parlait, ce qui était passionnant, c'est qu'il nous parlait de musiciens qu'il avait connus.
De son parcours.
De son parcours
à lui et
à lui,
travers d'autres.
Qui
et
était vraiment extraordinaire.
Pianiste argentin,
oui.
Professeur à Paris et au Conservatoire du Grand Angoulême, il s'appelle comme ça maintenant. Élève d'un pianiste majuscule, Arturo Benedetti Michelangeli.
Oui.
Michele Gedi, d'ailleurs, qui a écrit d'Alberto Neumann, il a fait un trésor de mon enseignement. C'est quand même beau.
Oui, c'est
trouve.
Bien. Comme
Nardo Zalco, dans son ouvrage Un siècle de tango Buenos Aires à Paris, questionne en disant comment se réparer aujourd'hui s'il lui manquait les échos du bandoneon de Piazzolla, la voix d'Alta Vuelta Yubanki, sans les pièces de Lavelli ou d'Arias, sans les claviers de Martha Argerich ou d'Alberto Neumann, sans les figures peintes par le Parc, sans les portraits laissés par Cortázar, sans la présence constante dans l'air parisien de la prose et des vers de Borges, sans le tango. Deux hommages extraordinaires à cet homme magnifique et ce pianiste superbe. Je me souviens de concertos donnés dans le cadre de Piano en Valois, notamment, et dire que Angoulême a accueilli un tel monstre du piano, monstre en bon sens du terme. Quelle chance pour celles et ceux qui l'ont croisé. Odéon d'Ernesto Nazareth fait écho sur le disque Tango Perpétuel enregistré par Alberto Neumann. Ernesto Julio de Nazareth, de son nom complet, est un compositeur et pianiste brésilien. Qu'est-ce qui est écrit de lui ? De nombreuses compositions de ce maître de danse brésilien sont des créations magistrales dans lesquelles la force conceptuelle, la beauté de l'invention mélodique, la qualité expressive sont dignes d'une perfection surprenante et source d'une forme d'équilibre rarement atteinte. Vous voyez, Catherine, on parle de ce musicien comme d'un maître de danse. Il y a encore des liens. Oui. Allez, avec la Sardane, tiens.
Oui.
D'ailleurs, lorsqu'on le voit encore sur des enregistrements, Alberto Neumann jouait, comment ne pas se souvenir qu'il dansait finalement. Il exprimait par le corps tout un tas de choses, et il indique lui-même que le mouvement, la danse se communique du centre du corps jusqu'au bout des doigts. Et c'est ça aussi le travail d'interprétation d'un pianiste.
Oui, alors, Alberto, il dansait vraiment quand il jouait, ça. Il faisait des grands gestes. Ouais.
Catherine, on danse. Allez, poussons les tables. Et voici Odéon joué, dansé par Alberto Neumann, souvent présenté comme une des plus importantes figures de la culture argentine en France et en Europe. Que ça fait du bien de danser dans sa tête, danser dans son imagination. Catherine, la vie d'une musicienne, ça connaît des changements tout au long de sa durée. Et il y en a un, il y a au moins une nouveauté dans votre vie de musicienne depuis cette rentrée associative ou cette saison, je ne sais pas comment dire. Quelle est cette nouveauté ?
Eh bien, j'ai pris la direction de la chorale de Mornac.
Qui s'appelle comment ?
Le Chœur des Fontaines.
On les salue ?
Ah oui, je les salue, bien sûr. Ils nous écoutent, j'aurais dit.
Ah, alors on les salue. On les salue deux fois. Pourquoi pas les inviter aussi, hein ?
Ah, mais ben,
j'ai encore jamais invité une chorale.
Oui.
Le Chœur des Fontaines. Pourquoi les fontaines ?
Alors là, je...
Vous savez pas ? Je vais vous le dire alors. C'est parce qu'à Mornac, il y a toute une partie. Une partie parle des fontaines de Mornac. Alors, les choristes de Mornac, s'il vous plaît, dans quelques temps aussi, dès que possible, faites visiter les fontaines de Mornac à Catherine Opic, votre chef de cœur, de Zéfeu, on dit, chef-feu.
Chef-feu,
vous,
oui.
Vous avez donc pris cette direction, c'est après une pratique du chant choral ou déjà de chef de cœur ?
J'ai toujours chanté en chorale depuis que j'étais au conservatoire.
Avec qui, par exemple, comme sous la direction de qui ?
Alain Perpétue, par exemple, à l'ensemble vocal. Mm-hmm. Et aussi avec Jacques Pézy, j'étais à Chorales en Charente. Mm-hmm. On faisait des grandes œuvres aussi, on montait des grandes œuvres. Mm-hmm. Et non, j'ai jamais cessé. Après, quand j'ai eu mon fils, j'avais plus trop de temps, mais j'ai toujours chanté en chorale. Et j'aime beaucoup le chant en général. Mm-hmm. Et donc, quand... l'année dernière, j'ai cette opportunité, on m'a proposé de prendre la suite.
Vous avez sauté sur l'occasion.
J'ai sauté sur l'occasion.
C'est une chorale que vous connaissiez déjà ?
Oui, j'accompagnais.
Ah, donc vous êtes aussi accompagnatrice, pianiste accompagnatrice, on le disait,
oui.
De cette chorale-là, et puis d'autres peut-être ?
Oui, j'ai 5 autres chorales.
De tout ? Ça fait 6 alors. Non, oui. Une à diriger, 5 à diriger, oui, et 5 à accompagner.
Donc j'accompagne Voyelle de Châteauneuf.
Oui.
J'accompagne le chœur de Charente, c'est une réunion de plusieurs chorales, le chœur du Pays Manlois à Mansle, l'Archantor à Champagne-Mouton, et le chœur de 7 et plus de Gonpontouvre.
Ah bah dites donc.
Voilà, je suis très souvent le soir en répétition.
Répétition toutes les semaines ? Pour chaque...
Oui, non. Il y en a certaines où j'y vais de temps en temps. J'y vais 2-3 fois avant les concerts. Et puis, j'accompagne les stages aussi. Donc, voilà, je peux les voir. Et puis, il y en a certaines que je vois toutes les semaines, d'autres tous les 15 jours. Voilà, j'arrive à m'arranger quand même. Mais par exemple, je n'ai pas eu pratiquement de week-end depuis le mois de novembre, parce qu'il y a aussi des concerts, il n'y a pas que les répétitions.
Oui, c'est la rançon de la gloire. Les pianistes et accompagnatrices talentueux et talentueuses sont forcément demandés. Voilà, moi j'en connais au moins une, c'est vous. Et j'en connais un autre, je fais un petit coucou. C'est Nicolas Rivière. Diriger, Catherine, qu'est-ce que ça signifie ? Diriger une chorale, je veux dire. Voir un orchestre, qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
C'est une personne qui réunit toutes les énergies des autres musiciens. C'est une idée musicale qu'on a dans la tête. Et que, alors il va y avoir une autre idée, c'est ce qu'on va voir en face. Et c'est l'unité de ces deux conceptions musicales qui font un résultat finalement. C'est passionnant parce que c'est comme un instrument de musique en fait, qu'on a en face de soi.
Ouais. La chorale est un instrument, et l'instrumentiste est le chef de chœur, c'est ça ?
C'est ça.
Et quand les choristes prennent conscience de ça, parfois ça les surprend, je dois dire. Quels sont les moyens à utiliser ou à mobiliser pour arriver à ça en tant que chef de chœur ? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour arriver à ça ? La gestuelle, la discussion,
l'explication. La gestuelle est très importante, évidemment. L'explication des choses, oui. L'énergie qu'on peut transmettre, c'est très important ça, l'énergie.
Beaucoup de musiciens me parlent d'énergie, ouais, pour eux, pour les autres.
Oui. Et puis de cette Ernst Schelieu parlait d'onde même, lui. Il disait qu'il y avait une sorte d'onde qu'on transmettait. Voilà.
Tout à l'heure, vous nous avez parlé des directions d'orchestre.
Oui.
Pour vous, aujourd'hui en tout cas, quelle est la différence ? Ou est-ce que diriger un orchestre et une chorale, c'est pareil ?
Quelque part, oui, c'est toujours de la musique, il y a des nuances, un phrasé, une écoute. Et justement, je vais faire juste une petite aparté par rapport au piano, parce que quand je joue du piano, je pense aussi à l'orchestre, souvent. C'est-à-dire que je vais penser à un instrument pour faire ressortir une phrase particulière. C'est évident quand on fait une transcription d'œuvre instrumentale, d'une autre formation. Par exemple, quand je joue, si je joue la cinquième de Beethoven au piano, je vais quand même penser aux instruments qui ont été utilisés au départ. Et je ne vais pas jouer de la même façon si c'est un corps, si c'est un hautbois, si c'est une...
Comme si le piano...
Faire
un écho, traduire, on va dire,
et ça va m'aider à...
Ce que vous entendez d'un instrument ou d'un autre, en tout cas dans votre souvenir ou par rapport à la partition de l'orchestre que vous avez...
C'est la musicalité, en fait, qui relie tout ça, que ce soit un orchestre, un chœur, un instrument, c'est l'expression d'une pensée intérieure et un sentiment, c'est... Voilà.
Catherine, je voudrais qu'on parle de vos coups de cœur maintenant, musicaux. Coups de cœur avec et sans H finalement. Mais avant, je vais me tourner vers Jean-Marc pour savoir si nous avons un gagnant ou une gagnante. Parce que la question que j'ai posée tout à l'heure, c'était quoi la question, je crois ? C'était quelles sont les
couleurs des touches habituelles, en tout cas, habituelles du piano.
Du piano, l'instrument dont joue Catherine Opic, notre invitée du jour sur Donnez Nouveau Note, RDC 93.4-92.5. Quelles sont les deux couleurs habituelles des touches d'un clavier de piano, l'instrument dont joue notre invitée du jour ? Catherine, pouvez-vous nous donner la réponse ?
Je ne sais pas.
Hein. Voilà, réviser. Repartez chez vous et revenez me dire, s'il vous plaît.
Je pense que c'est blanc et noir.
Et je vais encore vous faire travailler pour savoir si nous avons le prénom d'un gagnant ou d'une gagnante. C'est Christian, je crois.
Christian
de Charente-Maritime qui a écouté et qui a été le premier à appeler RDC au 05 45 95 09 87. Bravo Christian, merci à lui, merci à toutes celles et tous ceux qui ont joué. On ne peut pas toujours gagner. C'est Christian qui était le plus rapide. Il a gagné quoi ? Il a gagné un CD ou un DVD et une invitation à participer à une émission de la série Donnez-nous vos notes sur RDC. C'est. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Alors Catherine, nous en étions à vos coups de cœur ou de cœur, je ne sais pas lequel mettre d'abord, avec ou sans H. Et on va aller vers la Bulgarie. Avec quoi ?
Avec Zvata, c'est un traditionnel bulgare. C'est un chœur a cappella de femmes. Et qui a, qui fait partie d'un disque qui s'appelle Le Mystère des Voix Bulgares. C'est aussi le nom du groupe, je crois, qui existe depuis un certain nombre d'années, depuis les années 50, mais qui a évolué, bien sûr. C'est pas le même chose
qu'au
départ.
Le groupe persiste, mais oui, c'est comme oui, dans beaucoup voilà. de groupes. Oui. Les Harlem Globetrotters, pour ne parler que Golden Gate Quartet, Harlem Globetrotters, c'est des basketteurs et qui évoluent aussi. Golden Gate Quartet, c'est le quartet bien connu qui évolue, etc. etc. Et on a aussi le Nelson College for Girls. C'est un groupe de filles qui interprètent aussi cette chanson-là. Mmh. Alors, c'est une musique typique d'Europe centrale, oui. avec cette... interprétation particulière, ces voix tendues, tiens, je veux dire comme ça,
oui. qui sont sans vibrato,
sont un écho à l'habitude culturelle ancrée, c'est ça.
Oui, oui.
Alors on écoute.
Oui.
Allez, on écoute. Zvata, c'est un traditionnel bulgare, un arrangement de Risto Todorov. Il y a un travail presque rythmique, hein, oui. des percussions vocales, j'entends, moi, avec ce groupe-là, évidemment. Oui. Un autre coup de cœur, c'est le cantique de Jean Racine, on revient à Gabriel Fauré, et vous avez choisi l'interprétation d'un chœur qui s'appelle le chœur de chambre Ishango, c'est ça?
Oui.
Ouais.
C'était une version avec piano,
ouais.
parce que c'est souvent accompagné d'orchestre, ouais. et il n'y en a pas beaucoup avec piano, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette version.
C'est quelque chose que vous connaissez bien?
Oui, je l'accompagne actuellement avec le chœur du Pays Manloir et les Jingma en direction.
Alors bravo à cette chorale et à son chef et à son accompagnatrice qui est en face de moi et qui est sur nos ondes aujourd'hui. Le chœur de chambre Ishango a été créé à Namur en Belgique. Il regroupe des chanteurs de la région bruxelloise et de la Wallonie plus largement. Ils sont recrutés sur audition. Il est né du souhait d'aborder des musiques rarement chantées chez nous et le chœur se consacre essentiellement au répertoire du XXe siècle et du XXIe avec quelques exceptions. Depuis 2002, trois chefs se sont succédés actuellement. C'est Johan Yvon, qui le dirige. Je vais avouer que de temps en temps, il m'arrive d'être chef de chœur. Et depuis l'an passé, j'ai eu l'honneur, le plaisir de diriger une chorale qui a interprété ça. C'est l'ensemble choral au cœur des quais de Tonnet-Charente qui regroupe plusieurs instrumentistes et chanteurs de Charente-Maritime. Bravo et merci à ces choristes. Et puis, clin d'œil à Rob Willis, un de vos collègues, Catherine, qui est un pianiste accompagnateur avec un P et un A écrit en très très grand. Le Cantique de Jean Racine, c'est une pièce vocale composée par Gabriel Fauré alors qu'il avait 19 ans.
Oui, très jeune.
Il y a une version pour chœur harmonium avec un tête à cordes, ainsi qu'une version pour chœur et orchestre, vous le disiez Catherine. Mmh. Elle est dédiée à César Franck. La partition a obtenu le premier prix de composition au concours de sortie de l'école Niedermayer de Paris, parce que Fauré y était élève un moment. Mmh. Le texte de Jean Racine, Cantique de Jean Racine, c'est une paraphrase, c'est-à-dire une traduction libre, sans aucun sens péjoratif, de l'hymne d'Ambroise de Milan, qui était chanté au début des matines, c'est-à-dire de certaines cérémonies religieuses, le mardi. Le cantique, c'est l'une des œuvres interprétées lors de l'hommage aux victimes de l'attentat de Nice, il y a quelque temps. Mel Bonis, compositrice française, qui fait peut-être partie des personnes auxquelles vous faites référence dans votre conférence, Catherine, sur les compositrices, sur les femmes compositrices. Mel Bonis a écrit une œuvre au même titre, mais avec un texte différent. Peut-être qu'un jour, on pourra entendre l'une et l'autre pour comparer les deux versions. En tout cas, par le chœur Ishango, voici le cantique de Jean Racine. Thank you. Qu'est-ce que c'est beau. On a envie de l'entendre, de le réentendre à nouveau. Alors, le dernier extrait pour ce matin, le dernier choix musical de Catherine Hopic, notre invitée du jour, dans Donner une nouvelle note sur RDC 93.4.92.5. On va partir en voyage avec un chœur qui s'appelle le chœur voyageur, ça tombe bien. Et qu'est-ce qu'on entend?
Alors, c'est Amor de mi alma, de Zane Randall Stroop.
Ouais. Amour de mon âme, oui. C'est ça. Oui.
Je crois qu'ils ont participé à la création de cette... Ouais. Oui.
Zane Randall Stroop, c'est un compositeur contemporain américain et il a mis en musique un des plus beaux poèmes d'amour de la Renaissance espagnole, celui écrit par Garcilaso de la Vega. Et puis les paroles en français, hein, les Français, si on dit la première phrase, on a tout dit parce que ça commence par « Je suis né uniquement pour t'aimer ». Ces quelques mots laissent présager de la suite et à eux seuls, ils donnent envie de découvrir cette œuvre. Le cœur voyageur, né à l'initiative des étudiants en musicologie de l'université, non pas de Poitiers comme vous, Catherine, mais de Bordeaux, dirigé par Alexis Dufort, qui est également maître de chapelle de la cathédrale de Bordeaux, co-directeur artistique de cathédra avec Jean-Baptiste Dupont, l'organiste titulaire. Et puis, il travaille aussi avec le chœur de l'Opéra de Bordeaux. Il est chef assistant de Salvatore Caputo, pourquoi pas deux futurs invités de l'émission. Allez, on écoute maintenant, c'est le cœur voyageur, et c'est Amor de mi alma de Zane Randall Stroop. Un mot encore pour dire que Alexis Dufort dirige aussi les deux chœurs de la maîtrise de Bordeaux et qu'il a eu plusieurs reconnaissances de la ville de Bordeaux, de l'Académie nationale des sciences, pour son travail effectué dans cette grande ville de Nouvelle-Aquitaine. Alors, on disait tout à l'heure, Catherine, que la vie d'une artiste, d'une pianiste, d'une chanteuse, d'une professeure de piano, d'une chef de chœur connaît des évolutions, évidemment, des choses agréables, et le plus souvent, en tout cas, je vous le souhaite, mais il y a aussi des projets. Il y a des arrangements pour les élèves, par exemple.
Oui. Non ?
Allez, dites-nous ce que c'est ça.
Ben, en fait, je suis à l'écoute de ce qu'ils aiment aussi.
Et c'est bien, des professeurs qui sont à l'écoute.
Je leur propose bien sûr des classiques, mais j'aime bien être aussi à leur écoute. Et souvent, ils me proposent des chansons plus récentes, vraiment très très récentes. Et j'aime bien faire des arrangements pour le piano. Mm-hmm. On a fait par exemple Get Lucky.
Et de qui ça?
C'est de
Daft Punk.
Daft
c'est
Punk.
Ça
ah, ouais. Oui, oui.
Ah, ils sont quand même lucky, vos élèves, hein, je trouve.
Et j'aime bien faire des arrangements à plusieurs, à trois et à quatre.
Donc il y aurait peut-être une version prévue pour cinq pianistes sur le même piano.
Oui, 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 mais ça existe déjà. Je m'étais inspirée d'ailleurs de cette version. Et c'est vraiment... C'est très pédagogique parce qu'ils sont très motivés. Et puis ça, en même temps, on travaille quand même le rythme. Et puis ça me permet de...
Et c'est encore une preuve du dépassement des frontières dans le domaine musical, parce que finalement, est-ce qu'il faut des frontières à la musique, telle époque, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bon, il y a la musique avec un M, et puis après on aime plus ou moins telle époque, tel compositeur, telle chose. Mais bon, la musique est évidemment un univers très vaste, très large, et qui ne fait que croître et s'embellir, je veux dire comme ça, d'année en année. Alors il y a aussi des orchestres de piano, qu'est-ce que c'est ça?
Oui, là, cette année, j'ai commencé à proposer des stages pour mes élèves aussi. Et j'ai réfléchi à une solution pour pouvoir jouer ensemble, parce que le problème du piano, c'est que souvent il y en a un dans un orchestre, hein, et il n'y a pas.
Pas voilà. Toujours, c'est un instrument invité de l'orchestre.
C'est un instrument invité. Ouais. On joue souvent tout seul, bon, on fait des quatre mains, voire des huit mains, mais c'est quand même. Ouais. Et donc là, à l'occasion de ces stages, je fais comme un petit orchestre. Ils viennent avec leur clavier, plus mes pianos. Donc là, le dernier, il y avait six instruments. Et on a pu jouer à 10. Je propose des transcriptions, bien sûr. On a fait l'ouverture de Carmen. Pas une ouverture, un extrait de Carmen. C'était pas l'ouverture, c'était un des préludes d'un des actes. Voilà. Et,
avec ça, ce que vous venez de dire, la boucle est bouclée. On a commencé par Carmen.
Ah ben voilà.
Vous faites une allusion à Carmen. Le prochain stage, c'est pendant les prochaines vacances,
oui,
c'est ça?
Oui, au mois de février, la deuxième semaine de vacances de février.
Bon, alors, Catherine, tendons l'oreille. Écoutons, entendez-vous les voix des futurs participants à ce stage? Tendons l'oreille. Hein. C'est vivement, je crois, qu'ils viennent de dire, et comme on les comprend.
Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC.
Catherine Opic, alors que la conclusion de notre rencontre radiophonique se profile, je vais vous dire, me faisant sans doute l'interprète des auditrices et des auditeurs, que votre beau parcours musical résonne comme une symphonie de notes, une sonate ou un concerto, partagé avec d'autres, avec des collègues, avec des connaissances, avec des amis. Aujourd'hui, Catherine, vous nous avez magnifiquement donné vos notes, magnifiquement offert vos notes, avec un brin de fantaisie, si on en croit les anecdotes qui jalonnent votre vécu. Mais, auditrice, auditeur, tout ceci n'est sans doute qu'un prélude à ce que Catherine a accompli. Au final, ce n'est à l'évidence qu'un aperçu, une ouverture sur l'univers artistique et musical de Catherine Opic, notre invitée du jour. La suite est à construire. Le talent de Catherine permet que cette suite s'écrive un peu plus chaque jour, parfois avec un da capo, toujours ad libitum. Je n'ai qu'une nostalgie, celle du futur. Vous savez qui a dit ça, Catherine? Son prénom, c'est Alberto, et son nom, c'est Neumann. Que c'est beau, cette attente confiante du futur, d'un superbe futur. Voilà tout ce que je vous souhaite, Catherine, un futur superbe, dans la continuité de votre très beau passé, dans celle de votre magnifique présent. Ouais. Catherine, on vous l'a évidemment déjà dit, mais je vais reprendre la formule à mon compte. Que vous soyez pianiste, chanteuse, professeure, danseuse, conférencière, chef de chœur, continuez de nous faire profiter de cette belle musicalité qui est en vous. Continuez à nous la donner, à nous l'offrir. Merci beaucoup. Et par avance, pour ça, Catherine, je veux ajouter l'expression de mes remerciements émus et sincères pour avoir accepté d'être invité de donner nouveaux notes sur RDC. Et puis vous recevoir ce matin du 23 janvier a été une joie. Je n'ai pas boudé mon plaisir, pas plus que les auditrices et les auditeurs, sans aucun doute. Catherine, dans la continuité des invités qui ont déjà magnifiquement donné leurs notes, vous avez évidemment égalé la qualité de vos prédécesseurs, avec les anecdotes qui rendent votre parcours authentique, avec des moments de votre vie qui sont liés. Encore merci. Encore bravo, auditrices, auditeurs, dès que vous aurez l'occasion d'aller écouter et voir une prestation donnée par Catherine Opic, ou avec la participation de Catherine, foncez, vous ne le regretterez pas. Auditrices, auditeurs, je vous remercie sincèrement de votre fidèle écoute et des nombreux témoignages de satisfaction que vous adressez à RDC après chaque émission de la série. Donnez-nous vos notes. Merci encore à celles et ceux d'entre vous qui ont participé au jeu du jour. Bravo à Christian qui a gagné un DVD et le droit d'assister, la possibilité d'assister à une émission de la série. Donnez-nous vos notes. Catherine, croiser votre chemin sera toujours un plaisir. D'ailleurs, dans quelques temps, rien n'empêche une deuxième visite, un deuxième passage dans des nouveaux notes, seul ou avec des collègues, avec des amis, avec des rencontres. Un mot encore pour remercier Jean-Marc et pour dire que le 20 février prochain, le trio Heptameron sera notre invité. Jean-Marc, tu peux lancer le générique parce que tu sais quoi? Pour aujourd'hui sur RDC, donnez nouveaux notes. C'est fini.
Donnez-nous vos notes. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était Donnez-nous vos notes. Une note, des notes,
Donnez-nous des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes ? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission. Et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt, pour moi ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.